de Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, je vous ai remarqué. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Ah, je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
You t'as dit apéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.
Comme vous voulez.
Ouais.
Bah, les trois, nous... tu te sens
ah, bah, si, si vous voulez. Alors, du coup, Paris va gagner 1-0 à Ludogorets.
C'est le mot. C'est la canale de gauche, en effet, qui trompe Areola.
Allez, ok. Christophe.
Ouais. Donc, Paris va gagner avec un but de Ben Arfa.
Et manque de chance, Ben Arfa s'est blessé au tibia et donc est forfait de toute façon pour ce match face à Ludogorets.
Le champion, il est là. Il est là.
Monaco va gagner contre les Leverkusen 1-0.
Triste match, Monaco. On s'y retrouve pas vraiment. On y croyait en début de match, mais là, ça va pas du tout.
Monaco va gagner 2-0 contre Bayer Leverkusen.
Et Séville-Lyon, un bon vieux 0-0.
Ah, les rois du ballon, les rois du pronostic. Bravo, messieurs les champions, journalistes sportifs à Midi Libre, Christophe Castio. Bonjour, bien vu le but de Ben Arfa.
Ouais, il arrive. Je sens qu'il arrive.
Et ouais, mais il faut pronostiquer les blessures aussi, sinon ça peut pas marcher.
Ouais, j'y penserai la prochaine fois.
On va peut-être changer.
Je peux faire un petit. Mon coming out.
Vas-y.
Je suis désolé de te prendre.
Vas-y.
Voilà, je Emmanuel Mechaoui est là, que Badarou est là. Je vais dire à toute la Lozère aujourd'hui, je suis catalan.
Très bien, j'espère que c'est bien entendu. Laurent Julien, salut, égal à toi-même. C'est bien, d'année en année, ça change pas. Tu as toujours aussi faux dans les pronostics.
Voilà, bonjour tout le monde.
Merci. Sportif, journaliste sportif à Lozère Nouvelle, il est meilleur pour les pronostics locaux qu'internationaux. Patrick Biancon, salut, pas terrible non plus. Hein.
Ouais, c'est vrai, tu as raison. Et bonjour à toutes et à tous.
Et le champion a craqué, Aurélien Lacaze. On mettait tous nos espoirs sur toi et voilà.
Bonjour à tous. Et ouais, ben l'an dernier en fait j'étais nouveau dans l'émission, j'étais jeune, innocent, donc je pronostiquais tout juste. Je sens que vous m'avez porté la scoumoune au fil du temps.
C'est peut-être ça. Alors il faut préciser quand même que Christophe t'avais le bon résultat de Monaco.
Faut le préciser.
Bayer, oui, parce que quand même. Un 57e instant sport avec deux invités aujourd'hui, Emmanuel Mechaoui, l'entraîneur de l'équipe 1 de l'AS Badarou, et Romain Barandon, le capitaine. Bonjour messieurs.
Bonjour.
À remercier d'être avec nous. Alors, j'allais revenir sur cet excellent début de saison. Alors, une défaite est passée par là, mais ça reste quand même un bilan plutôt positif. Championnat Coupe de France, on va en parler dans cette émission après avoir parlé.
Tu as oublié quand même de dire qu'on a du public aujourd'hui. C'est une des premières émissions qu'on
fait.
C'est
vrai qu'on a du public.
Puisqu'on a un supporter de Badarou, Julien Dubois. Donc, il faut quand même le signaler. S'il avait dit qu'il venait à la radio, il faut quand même le justifier.
D'ailleurs, tu as mis tes protèges tibia.
Mais protège du bois.
Ce qui est rare, mais aujourd'hui, tu as peut-être raison.
Ah, on a fait quelques matchs ensemble.
Voilà, c'est pour ça.
Il vaut mieux être dans son équipe que contre lui, ouais, c'est vrai.
C'est pour ça qu'il est avec nous aujourd'hui. Allez, on va en parler début de saison. On va également parler du début de saison pour l'équipe masculine 1 du Monde Volley Lozère qui est allé s'imposer à Amiens, promu 3-7-1, alors avec un scénario quand même incroyable. Le MVL qui a réussi à s'imposer avec 7 joueurs sur la feuille de match alors que 13 avaient fait le déplacement. En cause, 6 joueurs n'ont pas pu présenter leur pièce d'identité aux arbitres. Utrel et Chouassi, Constant, le coach, ont dû jouer au centre. Patrick, c'est un sketch ?
Oui, c'est un sketch complet. Alors, il y a des footeux à côté, et c'est vrai qu'ils vont être surpris de cette règle, parce qu'au foot, à partir du moment où tu as ta licence de valider, avec le certificat médical, bien évidemment, tu n'es pas obligé de présenter ta carte d'identité. Tu ne dois présenter ta carte d'identité uniquement si tu n'as pas ta licence, et donc ça te permet de jouer. Mais là, au volleyball, on sait que c'est un sport très spécial au niveau des règles, une règle supplémentaire. Donc, quand tu as ta licence de valider, malgré cela, tu dois présenter une pièce d'identité. Alors, la majorité des équipes ne la demandent pas. Et là, il a fallu qu'Amiens aille jusqu'au bout du règlement où l'arbitre, certains arbitres ne le demandent pas. À domicile, j'ai rarement vu, quand Mende recevait, j'ai rarement vu des équipes présenter les cartes d'identité. Donc là, les arbitres et l'équipe adverse ont demandé les cartes d'identité. Alors voilà, comme ça arrive dans toutes les équipes, ben il y en a qui ont leur papier sur eux et puis d'autres ben qui l'ont pas, certains l'avaient laissé à l'hôtel. Alors l'hôtel était à plus de 50 km de la salle, donc il était inenvisageable de faire l'aller-retour pour aller les chercher, puis d'autres avaient carrément oublié à Mende. Donc heureusement qu'il y en a eu 7 qui avaient les papiers, parce que 2 de moins, tu te retrouvais à 5, ils étaient forfaits. Donc 20 heures de bus, départ vendredi, retour dimanche après-midi, donc tu vois un peu le scénario catastrophe qu'on a failli assister. Bon, tout se termine bien puisqu'il y a eu la victoire au bout.
Je pense que ce scénario a dû aussi jouer dans la motivation des joueurs.
Ah, on a fallu là. En plus, Amiens, il n'y a rien à visiter. Alors, par manque de chance, en plus éliminé, tu tombes à Amiens. Quoi. Faudrait se renseigner pour savoir si c'est l'arbitre qui était un peu strict sur les règles ou si c'est Amiens qui n'a pas joué le jeu en disant on veut vérifier, en se disant peut-être qu'on peut les amoindrir.
D'après ce que j'ai compris, Amiens ne l'a pas dit officiellement, mais Amiens, dans la coulisse, a mis une énorme pression sur les arbitres pour que les arbitres demandent les cartes d'identité.
D'accord.
Voilà, a priori, comme ça s'est passé.
Dans ton expérience de journaliste sportif, Christophe, t'as déjà vu une histoire comme ça ?
Ouais, des trucs comme ça, on en a vu, même au plus haut niveau, il me semble. Après, c'est pas très sport. En tout cas, ils le sauront. Je pense qu'ils prendront les cartes d'identité maintenant avant tout déplacement.
Et Amiens va les prendre à Mende aussi.
Ouais. Ouais. Ouais, ils ont intérêt, je crois. Et pour la petite histoire, j'avais interviewé le coach la veille du départ et il m'avait dit juré craché, je ne jouerai jamais cette année.
Voilà.
Voilà, c'est fait.
Du coup, pas trop le choix. Les 25-19, 22-25 pour Amiens, le deuxième set. Après, 25-20, 25-23. Eh bien, 7, plutôt pas mal, un premier déplacement. Amiens qui est un promu, hein,
comme
Mende. Dans les autres résultats, on va vite y passer. Il n'y a que des victoires à domicile. Avignon, Fréjus et à Luin. Donc Avignon, Fréjus, on s'y attendait. Voilà, ça suit son cours, on va voir. Les pré-nationales masculins continuent de perdre. Défaite à Clermont-Léraud, 3-7 à 0. Donc je propose à Constant qu'il parte à 6 tous les matchs ou à 7 et qu'il laisse des joueurs à disposition de la pré-nationale qui n'y arrivent pas cette année.
C'est vrai, bon, c'est compliqué, une équipe réserve. Il y a beaucoup de ces garçons de l'année dernière qui maintenant sont avec l'effectif de l'équipe 1. Donc, pas évident pour eux de réenclencher. Et au niveau de l'agenda, encore un déplacement hyper lointain pour l'équipe 1, samedi prochain, à Luin. À Luin, c'est juste à la frontière belge. Alors, je connais parce qu'il y a quelques années, Mende avait été déjà dans cette poule d'Aluin. Et à l'époque, les déplacements se faisaient en avion. Donc on décollait de Loudes pour atterrir à l'aéroport de Lille. Et d'ailleurs, on avait croisé l'équipe du LOSC, entraînée à l'époque par Rudy Garcia. Et il y avait Landro qui jouait dans les buts et Mavouba. Donc on avait pu faire des photos avec ces stars. Et donc à Luin, c'est une ville assez fabuleuse parce que d'un côté, tu es en France, donc à Luin, et puis tu traverses l'avenue, ben, tu es en Belgique. Donc il suffit de traverser la rue pour être de l'autre côté de la frontière. Donc c'est pas mal pour acheter la bière et le chocolat.
Et est-ce que tu avais pris ta carte d'identité pour traverser la frontière ?
Oui, parce qu'on était prévenu qu'on allait acheter donc de la bière en Belgique. Donc on s'est dit, bon, si on nous demande les papiers, donc on avait nos cartes d'identité sur nous. Mais il n'y avait pas eu de problème à cette époque-là.
Oui, vas-y Laurent, sors ta blague. Hein
non, je dirais pas.
Parce que j'allais la sortir sinon.
Non, mais vas-y.
Donc tu veux parler de filles de joie, des trucs
oui,
comme
voilà,
ça.
Oui, voilà, c'est ça. Bon, c'est commode.
C'est commode, ouais, la Belgique pour ça.
Voilà.
Voilà, mais on n'en parlera pas, Patrick, promis.
D'accord. Hein,
tu nous l'as dit avant l'émission, mais on ne dira rien.
Ok.
Ben, en parlant de femmes, les féminines ont cherché pendant tout le match Laurent dans les tribunes qui avait promis d'assister à cette seconde partie de championnat de l'équipe d'Amal. Et ben, elles se sont déconcentrées du coup et elles ont perdu 3-7 à 0 face à Béziers. Bon, ben voilà, on sait que ça va être compliqué. Elles ont fait un super match la semaine dernière. Là, je n'ai pas eu trop de retours. Laurent, peut-être toi ?
Bah, elles ont perdu, elles ont fait jeu égal, mais chaque fois, bon, voilà, il manquait le petit quelque chose pour gagner un set au moins.
Ah ben c'est bien.
Voilà.
Tu m'offres ma transition parce qu'il manque un peu quelque chose. C'est ce qui manque au MGC actuellement. En National 3, ça devrait pas tarder à sourire. Hein. On reste quasiment sur le même scénario que la semaine dernière avec une défaite de 2 buts à Loriol, 34 à 32. Pour Mende, alors les deux gardiens ont fait le job. Roche 6 arrêts, Nové 14 arrêts, dont 3 pénaltys. Chez joueur de champ, Bartholome 5 sur 9, dont 2 pénaltys. Cavalier 5 sur 6. Chagnard 6 sur 12. Fournel 2 sur 5. Mizuni, la recrue un peu en dessous avec 1 sur 4, c'est un pénalty. Room 2 sur 4. Pau 11 sur 14, dont 2 pénaltys. Et pas de but pour Lefter Catalin, Allègre et Gossi. Donc voilà, on reste dans le même scénario que la semaine dernière. 3 premiers déplacements qui sont difficiles. On sait qu'il a eu les joueurs à la fin de. Enfin, au début du championnat, il n'a pas pu mettre toutes les tactiques en route. On s'y attendait, on espérait gagner. C'est pas passé loin, Christophe. Ça devrait sourire.
Ouais, c'est pas mal, mais je me méfie de ces scores et de ces défaites valeureuses, parce que
ça reste des défaites.
Ça reste des défaites, et attention à pas perdre le fil. C'est dur, quoi. Alors, ils reviennent avec beaucoup de frustration et beaucoup. D'encouragement, mais attention à voilà, que ça continue pas sur ce tempo. Ouais.
Surtout que contre Saint-Flour, ça va être très très compliqué, ouais. Puisque Saint-Flour joue les premiers rôles aussi.
Mais non.
Donc, voilà, il va falloir se remotiver. Enfin, je pense qu'ils le seront, c'est sûr. Et puis voilà, je suis très surpris de voir que Mireille Catalin n'est pas marqué. Alors voilà, il va falloir que tout le monde se remobilise cette semaine.
Patrick ?
Oui, Pascal Daudet nous l'avait dit, cette équipe de Loriol va jouer la montée, puisqu'ils ont terminé, je crois, deuxième l'année dernière. Donc c'est un candidat vraiment logique pour l'accession à N2. Donc défaite à l'extérieur contre un prétendant à la montée, ça paraît logique. Après, il y a eu un scénario de match qui était assez aussi un peu fou, puisque dans le creux de la deuxième mi-temps, 8 buts de retard pour les Mandois. Donc l'équipe aurait pu complètement baisser les bras et tu aurais pu repartir avec une valise de 10, 12 ou 13 buts. Mais c'est pas ça qui s'est passé. Il y a une remobilisation. Tu as cité un jeune gardien, hein, puisqu'en principe il joue pas, et c'est Sébastien Frey qui joue en principe dans les buts. Bon, il n'était pas là. Il a fait vraiment une partie complètement hallucinante, et donc il est revenu quasiment à un but, puisque tu as eu la possibilité de revenir à un seul but d'écart. Bon, et finalement tu perds de 2. C'est vrai, ça fait 2 défaites au compteur. On va voir samedi. Samedi à domicile, il y a le derby contre Saint-Flour, dans une ambiance qui sera, à mon avis, totalement hallucinante. Il faut gagner. Il n'y a pas le choix.
C'est vrai que le coach nous avait prévenu que le début de calendrier leur était pas du tout favorable. Ouais. Donc c'est vrai qu'il commence par 2 défaites. Comme tu disais, Christophe, faudrait pas qu'il rentre dans ce cercle vicieux de défaites. Mais donc le troisième match à domicile va être hyper important. Mais on a l'impression quand même que les joueurs et le staff sont très concentrés et à fond sur leur match.
Les féminines l'emportent en pré-national à Bouillargues d'un but 22-21. Allez, celui qui a ses entrées chez les féminines, c'est Laurent.
Ouais, belle victoire collective là des féminines du Hand, avec, il faut le souligner, un très bon match dans les buts de la gardienne.
Il vaut mieux.
La gardienne.
Parce que si c'est de l'arbitre...
Yannick, voilà, j'ai cherché le prénom, c'est Yannick. Ouais. Qui avait eu quelques petits soucis la semaine passée, elle avait pris un choc à la tête.
Qui chantait ces soirées-là,
voilà. Super, vraiment. On va couper, on va reprendre.
Non, en direct, on peut pas.
Ah, mais ouais, donc Yannick qui s'est bien rattrapé de son match de la semaine passée et qui a fait un très gros match, qui a permis une victoire, une rare victoire à Bouillargues, puisque c'est pas facile d'aller gagner là-bas. Bravo, filles.
Ouais, c'est bien. Rugby, ça va souffler dans les bronches à l'entraînement cette semaine après la défaite du RCML à Sigean 43-5. Alors, si t'as des joueurs à engueuler, Manu, tu fais croire qu'ils sont en rugby, tu les mets à l'entraînement, parce que connaissant Loïs Morisson, qui cite dans Midi Libre aujourd'hui, il faut croire que nous étions en vacances sur le littoral audois, je n'ai pas reconnu certains garçons, il n'y a eu aucune agressivité collective, devant nous avons perdu nos duels et derrière ils n'ont mis aucune vitesse, aucune envie. J'attends une réelle rébellion dès dimanche prochain face à Tuchan. Ça risque d'être dur à l'entraînement. Ça va courir, là, Patrick, hein, mercredi. Hein.
C'est logique que tu prennes plus de 40 points. Bon, certes, à l'extérieur, on sait qu'au rugby, jouer à domicile, c'est vraiment quelque chose de fondamental. En plus, cette équipe de Port-la-Nouvelle qui apparaît vraiment comme une grosse équipe de la poule. Après, il y a des façons de perdre. Et c'est vrai que là, cet essai à 1, tu te fais atomiser, battu dans tous les compartiments du jeu. C'est vrai que c'est surprenant, surtout que la semaine dernière, tu fais un super match contre Bédarieux, qui est aussi une grosse équipe de la poule. C'est surprenant de passer d'un week-end à l'autre, de faire ce grand écart. voilà, il faut se reprendre dimanche prochain au chapitre contre Tosh Corbière, un club qui était en promotion d'honneur comme toi, donc la saison dernière.
Qui a zéro point.
Qui a zéro point, et donc là aussi, victoire indispensable pour le RCML.
On va suivre ça, c'est à domicile. Hein.
Oui,
ça
dimanche à 15h.
Dimanche à 15h, beaucoup de matchs à domicile hein, le week-end prochain. Football, allez, CEF à 2, Mande réussit un festival offensif face aux Corses de Lille Rousse, 6 buts à 2. Doublé de Diallo, 18e, 21e, Gourma 25e, Almera 53e, Fedel 58e, Rebelosso 69e. Christophe, Patrick, vous étiez au stade. Manu aussi. Christophe, Patrick, qui veut commencer à parler de ce match ?
Après toi.
Allez, Patrick.
On a vu un véritable festival offensif. C'est vrai que Laurent me le disait avant que l'émission commence. On se posait des questions, c'est vrai. On l'a dit, c'est un peu notre rôle aussi de mettre les débats sur la table.
Les pieds dans le plat.
Voilà. Donc on parlait de cette association Diallo Gourma, et c'est vrai que moi, quand je vois Fadil redescendre trop, chercher les ballons au milieu de terrain, je préfère qu'il soit dans la surface vu la dextérité qui est la sienne. Alors bon, c'est vrai que voilà, il est dans ce rôle, Manu le disait aussi avant l'émission, et de ce rôle de 9,5, bon, qui tourne un peu autour, qui redescend autour de Diallo, et bien c'est vrai que là contre cette équipe de Lille Rousse, ça a été un tandem vraiment magique, puisque Diallo marque 2 buts, il fait une passe décisive à Fadil. Sur le premier but, c'est Fadil qui lui met une passe décisive à Diallo. Donc les 3 premiers buts, on a vu ce tandem qui est vraiment rayonnant et qui a fait exploser cette équipe corse. Bon, une équipe vraiment mandoise qui a pris le match par le bon bout, qui s'est mis dedans à fond. Et voilà, je voulais dire, on a vu le premier match aussi de Aïssam Fadil, la recrue, qui il y a 2 ans était capitaine de la CFA2 à Arles-Avignon quand Johan Feber l'entraînait, qui l'année dernière était à Palava, cette équipe qui a dominé la DHR et donc qui maintenant est en DH. Il a été blessé en début de saison, il faisait son premier match en numéro 6. Vraiment, j'ai trouvé un super joueur, vraiment qui court beaucoup, qui tacle, qui récupère des ballons et qui en plus, j'ai trouvé excellent dans la première relance. Donc à revoir, et bon, des choix forts du coach aussi, puisqu'il avait changé de gardien, Johan Musi remplaçant.
Et Rebelosso sur la touche aussi.
Et voilà, et Jürgen Giraud dans les buts, un banc tout simplement royal, Nicolas Andréo, Johan Musi, Dorian Rebelosso, Ibrahima Diédou, Florian Fedel. Bon, le jeune Lucas Esco d'entrée qui a joué tout le match. Bon, voilà, des choix forts du coach, et puis ça tourne bien, on sent qu'il y a vraiment un effectif impressionnant.
Coach, Manu, on aime bien taquiner Fadigol dans cette émission, parce qu'on a tellement l'habitude de le voir marquer 2 buts par match, que cette année il en marque un peu moins au profit de Diallo. On se demandait justement si l'association peut marcher. Tu nous disais justement, tu avais été vraiment étonné par le positionnement et le jeu produit par Fadil Gourma.
Oui, je l'ai trouvé très bon. Pardon. Je l'ai trouvé très bon, il était à 9,5 voire 10. Et c'est vrai que d'habitude, on voit plutôt un joueur qui marque des buts. Là, il fait marquer et il a une qualité de passe et de placement. Moi, je l'ai trouvé très, très bon. Et à mon avis, c'est l'élément moteur à côté de Diallo. Diallo plus à la finition, et Fadil, c'est quand même celui qui fait la dernière passe, qui trouve toujours le bon espace pour la faire. Moi, Fadil m'a régalé. Après, peut-être que lui est frustré parce que on a entendu parler de Fadil jusqu'à aujourd'hui comme d'un buteur, mais là il se révèle aussi un très bon meneur.
Patrick ?
Non, c'est vrai que bon, Manu le dit. Je pense que oui, c'est vrai qu'il peut pas le dire, ni surtout publiquement. Bon, moi j'ai pas discuté que lui, donc je peux ce que je vais dire, j'en sais rien puisque je n'ai pas discuté directement que lui. Mais je suis d'accord avec Manu. Je pense qu'au fond de lui, quand même, il a une part de frustration. Tu ne peux pas passer pendant, je sais pas, 7-8 saisons où tu marques 20-25 buts par an. Tu es vraiment
sur les petites saisons là. Tu
ouais, vois. Non, mais voilà, sur les petites. Exactement. En pas comptant les buts de coupe. Non mais voilà, donc tu peux pas passer de ce rôle là
où il est déjà à 3 ou 4 buts en 4 matchs.
Ouais, mais le goleador, tu es le goleador, ouais. Vraiment numéro 1, c'est toi qui es dans la surface, tu es le renard, techniquement tu es d'une dextérité extraordinaire, et puis donc là tu vois arriver quand même un extraterrestre, hein, il faut le dire, ce Diallo qui quand même a un championnat en 4 matchs a déjà marqué 5 buts. Vraiment déviation de la tête. Alors moi je vois des fois des grands attaquants, bon ils dévient de la tête, mais ils s'annulent pas, Mais là, lui, les déviations qu'il fait, ça tombe toujours dans les pieds d'un coéquipier. Techniquement, sur le but de Fadil, la passe décisive, c'est une talonnade. Il fait des choses étonnantes et à mon avis il progresse. On voit déjà les effets d'un entraînement quasiment tous les jours au sein de l'AFL. Techniquement il s'améliore et donc tu demandes à Fadil de changer de rôle, d'être plus dans la construction du jeu. Bon, il y arrive hein, parce que comme le dit Manu, techniquement, ben il est au-dessus aussi du lot. Ça, on le sait, on l'a toujours vu. Mais je pense quand même au fond de lui, il y a une petite part de frustration. Il faudra l'inviter peut-être et lui poser carrément la question à lui pour voir s'il est vraiment frustré.
On va
Patrick, ne parle pas trop de Diallo comme ça, parce qu'il paraît que les recruteurs de Montpellier sont sur les traces. Certain Bruno Carotti
qui est
en train de rechercher pour Loulou Nicolin des joueurs, alors fais gaffe.
Mais Loulou lui a dit de prendre un défenseur, donc à ce niveau-là on est tranquille. Non mais plus sérieusement, j'étais dans les tribunes samedi et c'est vrai que tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui disent que Diallo est déjà beaucoup de recruteurs sont dans les tribunes et viennent le voir jouer. Pour faire des rapports pour des clubs de Ligue 2.
Il y en a beaucoup qui étaient allés le voir quand il a joué contre Badarou et ils sont tous partis. Hein, parce que là, il n'avait pas marqué. Hein, un coach.
Non, il n'a pas marqué.
Il n'a pas marqué.
Pour revenir sur le repositionnement de Fadil Gourma, moi, je pense aussi que le coach le repositionne à cette place-là parce que c'est celui dans l'équipe qui a aussi l'intelligence de jeu, la vision de jeu,
qui a
des passes millimétrées. Donc, c'est vraiment. Il reste quand même l'élément moteur de l'équipe, même si effectivement, il marque moins. Je pense quand même qu'il a un rôle très gratifiant dans le collectif et je suis pas sûr moi que ça le dérange. Je pense que c'est un garçon aussi qui sait se fondre dans le collectif et qui a l'intelligence pour faire passer l'équipe avant son cas personnel. Oui. Donc je suis pas aussi sûr que vous qu'il soit aussi frustré que ça.
Oui, arrêtez parce qu'il marque beaucoup quand même. Il a combien de buts en championnat depuis le début?
3
en 4 matchs. Ça va, hein. C'était les stats de Laurent sur une année, ça.
Et puis je pense qu'il peut compter sur l'effet Diallo, parce que les défenses vont attendre de plus en plus ce garçon, plus, qui est vraiment, moi, qui m'a fait une impression, il est au-dessus du lot. Vraiment au-dessus du lot, Diallo.
Ouais.
Et donc ça va forcément créer des brèches autour de lui. Et puis comme il se sert bien du ballon, effectivement, en remise de la tête, des buts à marquer, il y en aura pour les autres, hein, ça c'est sûr.
Alors on parlait de choix fort, Sesco qui joue toute la partie, Rebelosso sur le banc. Ça, c'est un choix fort aussi, hein, de Rebelosso.
Tout à fait, justement, pour promouvoir le jeune Lucas Sesco, qui était un U19 l'année dernière. Bon, mais voilà, il est à l'entraînement. Hein, le coach voit les joueurs tous les jours à l'entraînement. Donc, il prend ses décisions, il n'est pas fou. Hein, donc, s'il fait ses choix, c'est qu'il voit des choses à l'entraînement qui ne trompent pas. Après, bon, pour Lucas Sesco, c'est vrai... Match un peu compliqué, certainement aussi, hein, c'est pas évident, hein, 18 ans, tu es balancé titulaire en CFA2, à domicile, il y a quand même une certaine pression, puisque tu restais sur une défaite en championnat, contre Borgo, à domicile, 3-2, un peu timide, certainement, mais après, on a vu que sur l'aile gauche, il a tenu vraiment bien son rôle, beaucoup de travail défensif, et donc il a participé aussi à cette victoire, bien évidemment.
Coach, sur cette partie de Lucas Sesco,
il m'a plu aussi, parce que je le connaissais un petit peu pour l'avoir suivi avec mon fils en 17, en 15 ans et en 19. Moi, je l'ai trouvé propre, un peu timide, mais après, je me souviens d'une action sur côté gauche, où il fait quelques gris-gris, où il se lançait un petit peu. Moi, je pense que s'il y avait le papa qu'il a, il avait gardé la tête sur les épaules, et ça va être un beau jeune.
Ah oui, ça c'est, raconter, hein. c'est un élément d'avenir incontestablement.
Ça a vraiment été, moi je l'ai trouvé très bien, je l'ai trouvé bon et propre.
Mais c'est bien, ça fait un banc encore plus étoffé que celui qu'on attendait en début de saison. Du coup, Mende revient à la 7e place, 7 points, un match de moins. Donc autant dire que si ce match est gagné, c'est 3 points la victoire en CFA1.
Oui,
c'est
comme,
ben, ils sont deuxième ex aequo, voilà, tout simplement. Borgo est quatrième avec un match de moins que Borgo gagne, mais sinon on peut remonter à deuxième place. Ce match contre Div Cabourg, on en a parlé la semaine dernière, qui vient de Normandie, qui a été intégré, qui commence par un match nul à Limonest, un partout. Voilà, on peut être potentiellement deuxième. La réserve continue sans faute et gagne 4-0 face à Saint-Privat, il reste en tête. Donc on l'a dit, ça, depuis que Laurent ne joue plus en équipe 3, c'est la débandade, défaite à Montreda, 2-1. Mende qui est 5e, l'équipe 3, on n'a jamais vu ça, Laurent, hein. On s'en rappelle
Je sais plus, j'ai pas la mémoire, non, mais Montreda est une très bonne équipe, il faut pas
faut pas le nier. Et puis voilà, on est encore en rodage, nous.
Arrête de dire on, là, ça y est, t'y es plus.
Ah oui, c'est
là,
vrai, j'y suis plus. L'équipe 3 est encore en rodage. Bon, il y avait quelques joueurs blessés aussi, donc il faut pas non plus que tu t'emballes. Et ils vont se reprendre, mes copains, dès week-end prochain.
Allez, on va les suivre. Marvejol s'impose 2-0 chez la réserve d'Agde, but de Fall et Cartaya qui se replace au milieu du classement. Bonne opération, Patrick.
Oui, bonne opération pour Marvejol qui est resté sur un match nul à domicile contre Lunel. Excellente défense de Marvejol qui semble vraiment avoir solidifié ce secteur. Après, tu fais sans Diallo, hein, donc c'est plus compliqué en attaque. Voilà, 2-0 à l'extérieur contre une réserve de CFA 2. Donc, vraiment un excellent résultat.
On va inviter Diallo en même temps que Fadil. Ouais. Ce serait bien d'avoir les
deux. Ça serait pas mal.
On va essayer.
Bonne idée.
Pour le week-end prochain. Qu'est-ce qu'il y a, Laurent ? Arrête de faire la moue.
Je sais que Diallo est un très bon joueur, mais ce n'est pas le plus bavard des joueurs de l'équipe non plus. Mais on peut l'inviter.
On va essayer.
Je ne sais pas s'il ne va pas se cogner à la porte en passant. Mais enfin,
ça, c'est possible. Allez, bon, match nul de Langogne à Massiac, un partout. ENL, ils n'ont pas joué, non ? Je n'ai pas vu de résultat.
Si, le ENL a gagné 3-2 à l'extérieur. Ah. Première victoire.
Très bien.
Il le fallait. Il le fallait.
Ouais.
Contre la réserve de Cournon. À Cournon.
À Cournon, ben c'est un bon résultat, ouais. On passe à nos invités. Avant cela, on va parler de Coupe de France, bien entendu, avec le tirage au sort du 5e tour. Je vous laisse réagir, messieurs. L'AFL se déplace à Bagnoles. DH jouable, Patrick ?
Compliqué, puisque Bagnoles a gagné hier. Et donc, Bagnoles est premier en DH actuellement. Donc, ça sera, a priori, beaucoup plus compliqué que face à Aigues-Mortes, qui avait raté son début de saison. Donc, gros match. Hein. On sait qu'à Bagnoles Point, il y a beaucoup de joueurs qui jouait à Uzès, à l'époque où Uzès était en national. Il y a pas mal d'ex-professionnels, et donc à l'extérieur, sur un terrain a priori pas un super état. Donc le match piège.
Match piège.
Match piège.
Ok, Castelnau-Lecresse, DH reçoit Marvejol. Christophe, compliqué ?
Je peux pas te dire.
Merci. Notre public dit oui, compliqué.
Oui, ça sera compliqué, parce que Castelnau-Lecresse aussi, c'est une équipe qui va jouer le haut du tableau, enfin la première partie du tableau. Donc match compliqué pour Marjolais, mais bon, avec la défense de fer actuellement des Marjolais, on ne sait jamais.
Avec un doigt dans le groupe.
Avec un doigt dans le groupe. Qui
Nordine Aroub.
Ah oui.
Ouais, Nordine Aroub, capitaine en plus là-bas.
Ah bon ? Eh bien, il fallait le garder. Pourquoi il est parti là-bas ?
Pour le boulot.
Comme souvent. Entente Nord-Lozère qui reçoit une CFA2, le Puy Foot 43.
CFA.
Ah, c'est pas CFA2, c'est CFA.
Premier de CFA en plus.
Premier de CFA. Alors, je vais poser la question à Laurent, c'est pas
donc,
trop dire.
Énorme match.
Compliqué.
Alors, on va dire très très compliqué, mais puisqu'on se souvient qu'il y a pas longtemps, l'équipe de Nord-Lozère a perdu un championnat contre l'équipe réserve du Puy. Donc, très très compliqué, mais enfin bon. On ne sait jamais, la magie de la coupe. Bon, voilà.
Sur le terrain maudit de Saint-Alban.
Alors, l'ENL, tu ne nous l'as pas dit, mais a gagné ce week-end un championnat à l'extérieur.
Si, je l'ai dit.
Tu l'as dit ? Ah, j'ai pas écouté.
Je crois d'or, les mecs qui écoutent.
Non, j'écoutais pas.
Aurélien, reprends le micro. C'est fini.
Vous l'avez dit quand ?
Là, justement, il a dit, j'ai pas vu le résultat, donc j'ai dit qu'ils avaient gagné 3-2, première victoire de la saison.
Mais c'est très bien. Et réécoute mercredi, tu vas te sentir ridicule.
Non, mais là, il y a un énorme match. C'est samedi, ils ont avancé le match samedi à 20h. Donc sur le synthétique de Saint-Alban, donc gros match, une CFA leader en plus de son groupe contre le NL. Bon, il y a un gros match en perspective.
Allez, on finit. Badarou reçoit Conc, club de division d'honneur. Manu, on refait le
régional.
Régional, on refait le coup du 4e tour. Hein, on passe. Compliqué, pas compliqué.
Ben, si on gagne, c'est un exploit. Si on perd, c'est normal. Donc nous, ce qui est important, c'est qu'on se remobilise toute cette semaine suite à la défaite d'hier au championnat. Où je dirais pas grand-chose, si ce n'est qu'on a eu peur. C'était un peu une parodie de football dans un contexte un petit peu particulier. Donc là, déjà, on va rejouer au foot et on mettra tous les moyens pour recréer un exploit.
On sait, Patrick, qu'il y a des déplacements qui sont compliqués, des terrains. Toi, tu le sais en étant dirigeant de club et en ayant traversé le Var. C'est pareil dans le Gard, c'est pareil dans certains clubs d'Hérault. En Corse.
Ne critiquez pas les terrains, s'il vous plaît. J'ai fait une fois l'année dernière.
Non, mais c'est vrai que.
Non, on ne parle pas de terrains, on parle de jeux difficiles par rapport à l'ambiance.
On ne peut pas s'imaginer certains matchs, le contexte de certains matchs, tant que tu ne les as pas vécus. Et bon, une fois que tu as vécu ça saison après saison, alors bon, Manu, il a une énorme expérience, donc il sait très bien. Bon, le capitaine aussi, c'est pas des perdreaux de l'année. Bon, dans le public aussi, notre ami Dubois aussi, il sait ce que c'est ce genre de déplacement. Mais tant que tu les as pas vécu, tu peux pas savoir. Et donc, ben, c'est vrai que hier, il a regoûté. Alors, on dit ouais, mais c'est fini, ça existe plus, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, il y a des délégués, il y a des arbitres vraiment là. C'est costaud, ils font des tests, ils font ici, tout ça, bon. Et maintenant, ça existe encore, quand même, certains matchs comme ça, et bien, voilà, c'est ce qui s'est passé dimanche, et c'est vrai que c'est compliqué, dans ce contexte-là, de ramener des scores intéressants.
Capitaine, c'était compliqué ?
Ouais, j'étais pas moi hier, je suis blessé actuellement, mais...
T'as senti le coup, tu t'es dit.
C'est des matchs qui sont toujours difficiles, mais bon, c'est vrai qu'il y a des arbitres qui arrivent à gérer ce genre de match. On l'a vu à Vauvert l'année dernière, où on a eu un arbitre qui a été super, qui a vraiment géré la rencontre. Après, voilà, on savait que Saint-Bozély, ça serait compliqué. On y était déjà allé il y a 2 ans. Ça a été à nouveau compliqué cette année. Et je pense que ça sera encore compliqué les années prochaines. Donc, un match à oublier. Ils seront mobilisés pour la Coupe de France ce week-end. Quoi.
Côté effectif, côté club cette année, donc vous êtes monté l'an dernier. C'était une première année un peu de comment on pourrait dire, où on reconnaît un peu cette nouvelle ligue. On commence à s'habituer. Vous avez fait une belle saison. Cette année, qu'est-ce qu'on vise c'est quoi l'ambition du club? Veut monter?
Déjà l'année dernière, comme j'avais dit à Midi Libre, on s'était fixé l'objectif de se maintenir.
Ça a été fait.
Ouais, mais fixer un objectif, c'est se fixer ses limites. Donc on était dans les 2 premiers à la trêve. Et une fois le maintien acquis, peut-être un peu moins d'intensité, peut-être aussi que moi j'en ai réclamé un petit peu moins à l'entraînement, on s'est un peu endormi, on finit 6e alors qu'on aurait très bien pu finir dans les 3 premiers. Donc aujourd'hui, des objectifs, il n'y en a pas. C'est cultiver la convivialité qu'il y a au club, parce qu'il n'y a pas d'argent, donc on n'a pas ce levier-là pour intéresser. C'est cultiver cette convivialité, progresser ensemble, et puis on va prendre les matchs les uns après les autres, tout en se faisant plaisir. Si ensuite il y a quelque chose à aller prendre, on ira le chercher, ça, il n'y a pas de souci. Mais ce qui me fait peur un petit peu, c'est vrai qu'on a bien recruté. Les gens qui viennent au club nous apportent énormément. Après, voilà, on va fixer un objectif. Je peux éteindre des joueurs aussi. Des fois, fixer un objectif à un joueur, ben, on va l'éteindre. Là, comme ça, non, on reste sur la convivialité, le plaisir de se retrouver, progresser ensemble. Et puis après, il n'y a pas de raison. Ça, s'il faut que ça vienne, on ira le chercher, quoi.
Ça marche plutôt bien en ce début de saison, mis à part ce non-match. Oui. Tu parlais des recrues. Dis-nous un peu qui c'est qui est arrivé cette année.
Alors, on a Vladimir Petkovic, donc, qui s'occupe aussi des féminines. Donc, il est venu en donnant priorité à l'équipe féminine, puisqu'ils sont montés en honneur régional. On a Alfredo Gomez, on a Valérie Yen, Dimitri Guassem, donc Dorel Meshaoui, Romain Delaine et Jean-Louis Morgan.
Bah, ça fait presque plus de la moitié de l'équipe en recrue. Ça en fait pas mal, là.
Non,
ça fait 7, j'en ai compté 7.
Il y a 7 recrues, mais par exemple, la semaine dernière, contre Perpignan, il n'y avait que 3 recrues. Il y avait Dorel, Jean-Louis Morgan,
Valérie Yen,
et Dimitri Guassem, qui est rentré, lui, en cours de jeu, qui arrive du Gard. Et hier, par exemple, nous n'avions que Dorel dans les buts et Jean-Louis Morgan, en tant que titulaire. Donc, nous, quand je vous dis, on cultive la convivialité, parce qu'à un moment donné, comme je vous dis, on n'est pas payé. Donc, je n'ai pas ce levier où, bon, mais tu as un fixe, tu as un engagement vis-à-vis du club. Donc, nous, il faut aussi qu'on gère avec des garçons qui peuvent travailler le week-end et qui, donc, du coup, vont être là aux séances, mais ne seront pas là le week-end, ou alors ne seront pas aux séances et pourront être au week-end. Il y a des boulots de nuit. Donc, il faut jongler un petit peu avec tout ça.
Ça reste compliqué, oui. Les points forts de l'équipe cette année, c'est quoi ? Tu pars sur quoi ?
Les points forts, je pense qu'on est équilibré. Si on doit jouer au football, je pense qu'on est une équipe bien équilibrée.
C'est équilibré.
On est très bien au milieu avec un Pierre Pétavin. Derrière, on a montré avec 3 défenses différentes qu'on était vraiment costaud, parce qu'on va pas hier, puisque c'est un cas à part. Et devant, on a des garçons qui sont dans leur forme de leur vie, quoi.
Tu joues en quoi Vous jouez en quoi, Badarou, généralement?
En 4-3-3.
En 4-3-3.
Avec une pointe basse, et y compris contre la DHR de Perpignan. On a pris ce risque-là.
D'accord.
J'espère que sur 11 FM, ils n'écoutent pas aujourd'hui, hein, parce que sinon, ils vont se pointer dimanche et ils sauront toute la tactique. C'est nul ce que tu fais, Ludo.
Ah ouais, mais écoute, ils ne nous écoutent pas, on passe pas. On s'arrête à l'autoroute, ça passe pas. Sur ce club, Patrick.
Il faut faire un peu l'histoire des années précédentes. Bon, Badarou était sur une pente plutôt descendante, hein, puisque il y a eu une descente même jusqu'en première division. Donc on n'était pas habitué à avoir Badarou aussi bas, donc on se posait des questions sur ce club. Hein. Nous, en tant qu'observateurs extérieurs, bon, c'est vrai qu'on se posait des questions sur cette dynamique qui était pas fabuleuse. Et puis là, depuis quelques saisons, ben, on voit que ça repart non seulement à la hausse, mais ça repart très fort avec des joueurs qui sont arrivés, des gars qui sont là depuis plusieurs saisons et qui peuvent raconter justement l'histoire de ce club. Et on sait que c'est très important qu'il y ait justement des anciens qui puissent dire à ceux qui arrivent, ben voilà, Badarou, c'est ça, et on a connu ici, on était là, maintenant ça, donc il faut pas faire ses erreurs, il faut repartir comme ça. Donc il faut saluer tout le travail qui a été réalisé pour refaire partir ce club. Et puis des fois ça se joue à pas grand chose, parce que ils le savent très bien, mais moi j'ai assisté à ce match-là. Ben, l'année où ils sont montés, il y avait un match entre Saint-Georges et Le Buisson. Ce match, j'étais à Saint-Georges, donc je l'ai vu. Et donc il suffisait à Saint-Georges de gagner ce match-là à domicile. Et donc c'était Saint-Georges qui serait monté en PHEB. Donc on pouvait presque croire. Alors Le Buisson avait une petite chance de monter, mais il fallait qu'il gagne 10 ou 15 à 0. Et Le Buisson a joué le jeu, donc Le Buisson a gagné à Saint-Georges 2 à 0. Donc c'est Badarou qui a pu accéder à la PHEB. Et donc ils ont su saisir leur chance, puisque l'année dernière, ils ont fait une saison extraordinaire. Comme il a dit, presque on a pu croire un moment que tu pouvais jouer la montée. Et puis cette année, ça repart aussi du même niveau avec ce parcours en Coupe de France. On t'a éliminé le DHR Perpignan. Là, tu rejoues contre une DHR, toujours cette poule des PO avec Conk, qui était en DH, qui a joué contre Mende l'année dernière et qui est descendu en DHR. Donc tout est possible. Alors est-ce que vous jouez à Badarou? Est-ce qu'on le sait? Parce que là aussi, samedi dans les tribunes, on a entendu tout et son contraire. Il y a beaucoup de gens qui disaient le terrain de la Biogue est pas valide pour le cinquième tour, donc il va falloir jouer au chapitre ou ailleurs. Donc où vous en êtes,
là? Donc là, pour l'instant, on joue à Badarou. Bon. C'est vrai que je pense que le terrain va niveler les valeurs. Nous, on préfère recevoir à Badarou, on est à la maison. Maintenant, si on doit aller au chapitre, on ira. Mais aujourd'hui, c'est à Badarou. Après, d'accord, je voulais revenir un petit peu en arrière, parce que l'année de la montée, il y a quand même un garçon qui avait fait du bon travail, c'était Anthony De Freitas. Moi, j'ai pris la suite.
Tout à fait.
Et puis, c'est un club où il y a une âme. C'est un club qui a été frappé par des drames pendant quelques années. Et je pense que ça a eu pour but de fédérer, et les gens ont adhéré à tout ça, se lâchent pas. Et je vous promets que moi, j'ai été à Marvejols, j'ai été à Mende, à Florac, et il y a une chose que j'ai pas ressentie ailleurs qu'à Badarou. Il y a une âme, et puis on a un bureau fort et jeune, dans la mesure où on a des garçons au bureau qui ont entre 28, enfin même 26 ans, je crois, jusqu'à 32 ans. Et voir des garçons qui ont 26, 32 ans se démener comme ils le font pour le club, en général, sont sur le terrain, quoi. Et c'est un ensemble. Après, Romain, peut-être, peut en dire davantage.
Oui, exactement. C'est vraiment un club de copains. Voilà, on a plaisir à se dire ça, qu'on est vraiment un club d'amis. Il n'y a pas d'argent chez nous. On ne veut surtout pas qu'il y ait d'argent. Enfin, je fais partie du bureau, donc avec Alex Dubois, le président, c'est vrai qu'on veut se tenir à ça. C'est vraiment un club sans argent. Tout le monde paye sa licence, les recrues comme les anciens. Donc on est vraiment un club soudé. Et c'est vraiment ce qui fait la force de ce club. Je reprends les propos de Valérie Yen, qui avait un peu lâché le foot il y a quelques années et qui est revenu à Badarou, qui me dit quand même, vous avez un joli club. Voilà, donc ça fait plaisir quand une recrue vient et qu'ils tiennent des propos comme ça.
Voilà. Badarou, c'est combien à peu près de licenciés, vous le savez?
55 en senior. Ouais. Après, il y a les filles.
D'accord. Il faudrait parler des filles. Ouais. Je ne savais pas qu'ils étaient en honneur régional. Ouais,
c'est une fusion avec Mende. Hein. C'est un seul club entre l'AFL et Badarou.
D'accord.
Et donc là, cette année, elles ont accepté de jouer en ligue, ce qu'elles ne faisaient pas depuis quelques saisons. Quoi. Donc c'est bien qu'elles aient accepté de relever ce challenge. Et en plus, elles ont de bons résultats. Donc félicitations à toutes ces filles.
Le prochain match, c'est contre qui?
Donc c'est le Gascon ce week-end.
Ouais, il y a coach, on essaye de t'appeler là.
C'est le coach de la 2.
C'est le coach de la 2. Ah, ben on va parler de la 2, c'est pour ça. Et de dire, mais on parle de la 2 un peu. Allez, un mot sur la 2, sur cette réserve qui joue
en quelle... C'est Philippe Ottoman que tout le monde connaît dans le monde du football lausarien.
D'accord, qui joue en quelle division ?
En première division, donc l'équipe est montée l'année dernière, où l'objectif affiché du club, c'était le maintien en équipe 1 et la montée de la 2, donc ça on l'a réalisé. On réalise aussi que la première division, enfin, en tout cas à mon avis, c'est la, je ne veux pas offenser les gens, mais à mon avis c'est la première division où on commence à jouer au foot en Lozère. Et là, après mauvais départ... Hier, malgré la défaite, ce que j'ai entendu des joueurs cadres, ils ont commencé à reprendre du plaisir, à bien se repositionner dans le terrain, sur le terrain. Et du coup, donc, ces cadres vont revenir à l'entraînement. Et à partir de là, je pense ça va se fédérer au niveau de ces gens-là. Et les résultats vont arriver.
Eh bien, on espère. Hein. On vous souhaite le meilleur pour cette saison. De toute façon, on donne vos informations, vos résultats dans cet instant.
Un petit mot sur le bureau. Là, vous avez parlé du bureau, mais président, on peut les citer parce que c'est un des personnes.
Il a dit le président.
Il écoute.
Le président. Les autres.
Ah oui, oui. Laurent a raison. Donc le président, c'est Alex Dubois. Mais après, il y a des garçons qui font un énorme travail. Donc il y a Vincent Messonnier, Paul Pétavin, Gaëtan Rodriguez. Donc Romain qui est aussi capitaine et qui mélange pas les deux fonctions d'ailleurs et qui fait pas pression pour jouer, pour pas jouer, et c'est ce qui fait qu'il est capitaine et que c'est quelqu'un d'honorable et de performant. Adrien Messonnier, je vous dis, c'est les garçons qui peuvent être exclusivement sur le terrain. Il y a aussi quelques filles qui rejoignent le bureau. Donc c'est jeune, c'est dynamique, et puis voilà, tout à l'heure Romain disait les joueurs paient leur licence, mais les joueurs aussi ramènent des sponsors
et des filles.
Et les filles.
Dis pas ça parce que Laurent va s'inscrire pour être dans le bureau.
Un oui. Petit tour de Coupe de France, ça serait pas mal pour les caisses quand même. Là.
Ouais, un petit de plus alors, là.
Voilà, mon rêve, celui que j'aimerais réaliser, c'est effectivement passer ce cinquième tour. Après, on nous annonce un choc contre l'AFL. Moi, je pense que c'est un peu. Ça serait compliqué, ça pourrait nous mettre aussi.
C'est vrai qu'on l'a annoncé, la semaine dernière, on l'a annoncé. Ouais.
Ça pourrait nous mettre une grande claque aussi. Ou alors j'invente un système tactique, je sais pas, on joue un 7-3-0, quoi. Ou à la Biog, peut-être que Fadi leur sera de rentrer sur le terrain à cause des bons.
Juste pour préciser ce que tu dis, Christophe, de passer un tour à ce niveau-là, au cinquième tour, c'est bien, c'est très bien pour la gloire, enfin pour tout ce que tu veux, mais pas financièrement.
C'est au sixième où ça
commence. C'est au sixième. Quand tu passes du sixième au septième. Parce que là, ils vont gagner trois ballons de plus, quatre plombs, mais il ne faut pas croire qu'ils vont gagner plus.
Si on arrivait à passer ce tour, si on arrive au sixième tour, je crois que c'est 6 000 euros.
C'est ça.
Et 6 000 euros, c'est un tiers du budget à Badarou, quoi.
Ouais.
Non, mais je
c'est
suis
le,
d'accord.
C'est le salaire ronde de Laurent.
Je suis
qui l'ont fait signer.
Je pensais que c'était le tour suivant encore. Ouais. Que
non, nous, on nous a annoncé le sixième. Donc,
et puis, il y aurait ne dites pas des sommes de comme ça à Valérie Yen, parce que là, il va devenir fou. Hein. Là, vous en réclamez pour commencer.
C'est l'entrée de quel club, le sixième
Non, il n'y a pas d'entrée. La Ligue 2, c'est le septième.
Ah, donc les derbies s'approchent. On ne sait jamais. Et ouais, parce que Marvejol, Mende, on aurait pu tomber, se retrouver sur un derby.
Ben là, tu as 10 matchs ce week-end. Après, et donc, le prochain tour, tu as 5 matchs. C'est donc,
du coup, vous êtes le petit poussé de la Coupe de France, là, c'est ça ?
Alors, sur
du Languedoc-Roussillon.
Du Languedoc-Roussillon, mais aussi.
Il y a 7 pointes courtes aussi, en PHB.
Facile d'aller jouer aussi à la pointe courte à 7. C'est sympa comme ambiance. Bon, on va suivre ça. Allez, une dernière info avant de passer à l'actualité nationale internationale. Une info soufflée par Aurélien Bonnel qui nous suit sur Mathieu Caramel, le cycliste qui s'est engagé avec l'AFC Aix-en-Provence. C'est un club de DN1. Donc voilà, le coureur qui est lausérien âgé de 22 ans, qui s'est classé deuxième du Grand Prix de Bénéjac, quatrième du Grand Prix de la Préhistoire, etc., qui vient de signer, qui est la quatrième recrue de la VC Aix-en-Provence. Donc c'est bien de le suivre, Christophe.
Dans le même ordre de croissance, on va dire, le jeune Mendes, qui est du même club que Caramel, signe aussi dans une DNA.
Très bien, on a des bons cyclistes. En parlant de cyclisme, oui Laurent, vas-y.
Non, c'est pas du tout sur du cyclisme, puisqu'on parle de sport local. Il va sortir un nouveau magazine. Alors j'ai dit que j'allais en faire la pub aujourd'hui. Un magazine de sport version papier qui va sortir. Alors messieurs, accrochez-vous. Donc tous les 6 mois, ça va s'appeler Sport Esprit Lozère. Donc c'est un magazine d'une 40aine de pages, tout en couleur bien sûr, avec des pubs. Donc si vous êtes intéressés, et qui va parler de plusieurs disciplines sportives de Lozère, que ça va du vrai sport, je dirais, jusqu'à la randonnée, tout. Avec des figures locales qui vont
jusqu'à la randonnée, du vrai sport ouais, jusqu'à la randonnée.
Mais, là, il y a bon, non, mais ça compte.
Laurent Julien, si. Commercial, bonjour. Voilà.
Donc, ils vont revenir sur des bénévoles chaque mois, sur des sportifs. Je crois que sur le premier numéro, ça sera David Julien qui sera.
Ta famille, ça.
Non, pas du tout.
Pourquoi ils font pas la une sur nous pour le premier magazine sur l'Instant Sport?
Non, mais j'en ai touché deux mots pour le deuxième, par contre.
Pour le deuxième. Les deuxièmes, on accepte aussi.
Et donc voilà, donc c'est un magazine qui est créé par deux copains de l'AFL que vous connaissez tous. C'est Michael Pradier et Pierre Tessier qui ont souhaité faire ce magazine et je les félicite.
Allez, oui, c'est très bien.
Et voilà, je voulais leur dire un petit mot, on en reviendra, on le feuillettera.
Très bien, ouais. On va les
Et
on
c'est
les
gratuit, j'ai oublié de le signer, ça sera gratuit.
Ah
oh, bon, on va l'acheter alors.
Ouais. Elle est pas mal celle-là. Qu'est-ce que j'ai prévu comme chanson? Il faut que je mette une chanson qui bouge un peu parce que sinon il m'engueule. Tiens, on va mettre les Black Rose. Allez, on se retrouve juste après.
Welcome to the good times, honey. Did you bring your own parade? Now welcome to the big time, baby. Time for a serenade. La da 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 da. La da 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 da. Did you say? Try to hide, but you're not strong enough to ever get away. And it only goes to show what we all know. Did you bring your own parade? Welcome to the big time, baby. Time for a serenade. La da 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 da. La da 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 da.
S'il vous plaît, monsieur Biancon, un peu de sérieux, on revient parce qu'il y a une information de la plus haute importance qui est tombée. Jérémy Mathieu arrête sa carrière internationale.
Ah ouais, combien, il a 5 sélections.
Je sais pas. Ouais, non, on va pas parler de ça. La Ligue des Champions, est-ce qu'on en parle ? Pas grand-chose à dire, hein. rien d'étonnant. Hein. Non.
Il a marqué un but contre son camp hier pour fêter sa retraite internationale.
Oui, d'ailleurs, ils n'ont pas gagné Barcelone. Ils ont même perdu. Ils ont même perdu. Non, je n'ai pas suivi.
Cela dit, c'est là où on voit un mec intelligent. Il voit qu'il n'a plus sa place et où il n'a jamais eu sa place, d'ailleurs. Là.
Non, mais il était convoqué, un bus.
Ouais, non, ouais, mais il est honnête de dire non, ben, c'est ridicule, j'y vais pas, laisser la place à un jeune. Quoi.
Et puis, on l'a vu jouer sur le terrain du Val d'Aunès à Sixte.
Ouais, à Roufiac. Il a fait un tournoi de foot à Roufiac.
Il était bon ?
Il était cramé, surtout.
Il courait pas beaucoup.
Non, c'est là où sa carrière a commencé à chuter. Après.
Et ouais, il était à Sochaux. Mmh. Et il y a un Lausérien qui était parti à Sochaux. Ouais. On en parlait.
Il vient de signer
à Rodez.
À Rodez.
Il est rentré à la maison.
En CFA, ouais. Ouais.
Il était au Paris FC l'année dernière.
Oui. Loïc Poujol.
C'est ça, Loïc Poujol, exactement.
Il vient de signer à Rodez. Rodez qui fait un excellent début de saison, d'ailleurs. En CFA.
Cinquième.
Ouais. Excellent, oui.
Alors qu'ils auraient dû descendre en CFA 2, mais ils ont été repêchés à cause de clubs qui, justement, ont arrêté pour des raisons financières.
Allez, vu qu'on a un Stéphanois dans le public, on va parler du derby Lyon-Saint-Etienne, Lyon 2, Saint-Etienne 0. Alors, je vous avouerai que je ne l'ai pas vu. Ce matin, Genesio disait, non, mais pour une fois, on a la chance avec
Lyon. Il y a eu un tacle magistral de notre Marseillais préféré, Morel, Jérémy Morel.
Donc, ce grand défenseur.
Quand il faisait ce genre de tacle à Marseille, il prenait le carton rouge. Et là, comme il y en a qui est à Lyon, il fait ce genre de tacle, mais il prend que le carton jaune. Donc, tant pis pour les Verts, tant pis pour vous.
Et ça s'appelle la jurisprudence Aulas.
Voilà.
Hein, ils ont Exactement. Fait pareil contre Montpellier il y a 2 semaines.
Et sur la contre-attaque, but pour Lyon.
Qu'est-ce que tu as vu le match, ouais, qu'est-ce que ça a donné ? C'était intéressant.
Non, il y a eu un joli match. Hein. Moi, j'ai trouvé deux équipes qui ont essayé de jouer. Il y a eu des actions de part et d'autre. C'est un peu sévère pour les Verts. Bon, après, ils ont commis 10 ou 11 blessés, je crois. Et
en plus, à Mouma. Kevin Monet-Paquet, arrière-gauche.
En plus, à Mouma qui se blesse au bout de 25 minutes. Donc, un blessé de plus. Bon, ils ont fait un match sérieux. Ça a basculé sur ce coup du soir.
On va parler peut-être de championnat avec Nice qui continue à gagner. Très beau but de Balotelli qui se fait exclure, c'est un peu dommage. 2-1, 7-0 Monaco. Ouais. Metz, on disait c'est faible, ça risque de partir.
Non, c'est pas on disait, je le disais, puisque vous allez tous rigoler. Ouais. Mais enfin, bon, voilà. On constate que Metz vont descendre en Ligue 2 petit à petit.
Non, ça veut rien dire. Hein. C'est pas parce qu'on perd une fois 7-0 que.
Oui, remarque.
On a perdu une fois 7-0.
C'est ce que j'ai dit pour l'ONL il y a 15 jours. C'est vrai.
Tiens, le coach, le capitaine, vous voyez qui cette année champion en Ligue 1 ?
Si c'est pas Paris, ça serait pas logique. Donc, ouais, je dirais Paris, même si je suis Marseillais. Mais... Mm.
Coach, pareil, Paris, tu les sens encore cette année ? Ils sont intouchables ?
Manu, il arrivera pas à le dire.
Je connais Manu, il arrivera pas à le dire.
Je connais pas.
Paris qui s'est bien ressaisi, 2-0, bon match un peu plus solide. Alors il paraît que l'entraîneur a eu une grosse réunion, ils en parlent dans l'équipe aujourd'hui, avec les cadres, parce que ça n'allait pas.
C'est les joueurs qui décident, d'après ce qui se dit. Donc ils ont décrété qu'il fallait jouer dans tel schéma. Bon, si c'est vrai, c'est un peu quand même inquiétant pour ce coach Emery, qui c'est vrai a une réputation quand même assez impressionnante, avec des résultats dans un club, certes, pas du niveau financier de Paris, mais quand même 3 Ligues Europa d'affilée, c'est quand même merveilleux. Et à Paris, c'est vrai qu'il perd des matchs, et si en plus maintenant c'est les joueurs qui font le schéma tactique,
non, il faut pas l'entendre comme
mauvais,
ça.
Ça sent mauvais.
C'est justement des coachs qui arrivent à se remettre en question quand ça marche pas, c'est là qu'on voit leur intelligence plutôt. J'ai du mal à défendre le PSG, mais là, c'est le cas. Si Manu il nous parlait d'un 4-3-3 et que ça foire, Romain et ses copains lui dire peut-être Manu il faudrait changer, peut-être que Manu l'écouterait, le repenserait. C'est là qu'on voit un bon entraîneur et je pense que Emery en est un, quoi.
Manu et après Christophe.
Non, après je pense qu'avec les joueurs on peut échanger, mais on n'a pas à se répandre en dehors du vestiaire.
Ah, après, il ne faut pas le dire dans la presse, c'est sûr.
Oui, mais à ce niveau-là, c'est...
il ne faudrait pas qu'on le retrouve dans l'Auxerre Nouvelle ou dans Midi Libre. Ouais, quoi.
Ouais. Bon, j'ai un capitaine, c'est un référent dans l'équipe, on arrive à discuter de choses, mais ça reste entre nous, en tout cas avec l'équipe. Quoi. Donc là, au niveau, passer dans la presse, c'est un peu des cabales, ça.
Christophe ?
Il y en a un qui doit boire du petit lait quand même, parce que avec ses 22 millions là, sous le coude, quand même, parce que c'est ce 4-3-3, il est quand même symbolique, c'est les mêmes que le 11 de Laurent Blanc l'an dernier.
C'est le même.
On a fait venir ce mec pour autre chose, et au bout de quelques mois, bon, je le crois assez intelligent, et ça je peux pas dire que je suis optimiste pour Paris parce que là je pense que ça peut bien tourner, mais n'empêche que là ils en sont à reprendre la recette de Laurent Blanc, quoi. Ça va être savoureux pour lui quand même.
Non mais je plaisantais, c'est vraiment un con, hein. Le mec, il a Ben Arfa dans son groupe, il le fait pas jouer, je vais dire. Bon. Allez, je reviens sur ce que j'ai dit.
Il est blessé. Tu veux que je repasse la bande ?
Qui est blessé ?
Ben Arfa, il s'est blessé au genou. Non, après il a fait rentrer.
Ah mais il a joué, il est rentré.
Là. Il a joué. Nantes et Lille ont gagné. Oura ! C'est bien ça.
Hein ? C'est bien pour Gérard.
C'est bien pour Gérard.
Demande à ta grand-mère. Tu te le diras.
Et ouais, on voit d'où vient l'éducation de Jourdain après avoir eu Gérard pendant deux ans.
D'ailleurs, qui a été excellent, Jourdain. C'est le premier but de.
On ne parle pas de Montpellier.
La sortie médiatique de Jourdain, je l'ai trouvée assez exceptionnelle quand même.
C'est quand on n'a pas parlé la semaine dernière.
Quand il vient au Tolisso, micro.
C'est beau ça.
Moi, ça m'a fait marrer. Ça m'a fait plaisir.
Ah. Moi, ça m'a fait marrer. Il a
dit la vérité sans être spécialement vulgaire.
Oui.
Parce que lui, bon, les gros mots, c'est les virgules pour lui, ça compte pas. Mais ouais, c'était sympa, c'est rigolo. Quoi.
Il a pas tapé, j'ai cru qu'il allait y mettre un coup de tête, mais non.
Mais après ça.
Ah oui, hors caméra.
Ok, bon, on parle pas du match des clowns là, contre Angers.
Non, contre Dijon, tu veux dire.
Ouais, il faut supprimer Angers. Les arrêts de jeu.
Ah ouais.
Quelle belle passe décisive de Doria.
Ouais.
Moi, ça, c'est marrant, j'ai regardé le match hier, et d'habitude, quand tu suis un petit peu le foot, les adversaires qui jouent contre Angers, ils disent « Putain, ils sont nuls, ils touchent pas une bille, ils restent derrière, t'as la balle, et t'arrives contre un mur ». Et là, c'était l'inverse, en fait. Angers, c'était le Barça, quoi. Ils avaient toujours la balle et nous, on était comme des cons.
On dirait l'OM de Bielsa, Angers.
On marque un but d'un fantôme et puis bon, alors, hein, à la fin, c'est honnête.
Avec quatre têtes consécutives pour les Angevins dans les arrêts de jeu, surtout dans ta surface de réparation.
Ouais, jamais
c'est quand même pas mal.
Surtout que t'as un goal qui fait 2m50, il peut pas aller le chercher.
Il sort quasiment jamais.
Moi, je l'aimais bien Pelé, mais cette année, je l'aime pas trop.
C'est le pigeon.
Il vieillit mal, cet homme.
Ouais. Hein ? Contrairement à d'autres, ouais, c'est sûr.
Ouais. La Ligue des Champions, c'est dans deux semaines. L'équipe de France a les deux matchs Bulgarie, on s'en fiche un peu. Hein ? On ne va pas se rappeler à de mauvais souvenirs.
Ouais, mais il faut gagner, parce que sinon...
Il faut gagner, c'est où ? C'est à la maison, la Bulgarie.
Ouais, ouais.
Et les Pays-Bas, c'est à l'extérieur ?
Oui.
C'est la même semaine ?
Oui.
Allez, on va parier sur les Pays-Bas, alors. Comme ça, je pourrais faire une petite bande-son pour la semaine prochaine. Parle-nous de Robben qui a marqué ou un truc comme ça, tu vois, de joueurs blessés.
Non, on va pas sélectionner.
Justement, c'est pareil. Allez, le champion commence par toi, parce que sinon, tu écoutes les autres et après, t'es perdu et tu dis n'importe quoi.
Victoire de la France, 2-0.
D'accord, aux Pays-Bas. On pourra parler de Pogba aussi, qui est pas très bon en ce moment.
Donc, match nul, 0-0.
Christophe.
2-0.
Pour
la France. Ah oui, non, les Pays-Bas.
Est-ce que vous savez que c'est aux Pays-Bas ?
Ils sont lamentables.
2-1 pour les Bleus.
2-1 pour les Bleus. Allez, ouais. Coach.
Ouais, également 2-1 pour les Bleus.
Ok, capitaine.
Ouais, moi, je dirais le petit 1-0.
Julien, viens.
1-0
pour la France. Ouais.
1-0 pour la France. Victoire des Pays-Bas dans le public, 1-0. Allez, je te suis, parce que personne ne parle des Pays-Bas. Victoire 1-0 des Pays-Bas. Allez. But de Johan Cruyff.
Ouais.
Parfait, on pourrait dire un mot sur Pogba. Qu'est-ce qui se passe, Patrick Pogba ? Moi, je l'ai jamais trouvé extraordinaire, ce joueur.
Si, il est extraordinaire. Il a des qualités extraordinaires. Après,
alors, combien de matchs sur combien ?
Oui, mais dans l'expression du jeu, collectivement, après, dans un schéma tactique vraiment précis, c'est là où, à mon avis, il a encore tout à faire. Après, je pense que ça dépend de l'entraîneur qui le manage également, puisque j'ai vu beaucoup de matchs de Pogba, j'ai vu plusieurs matchs de Pogba quand il jouait à Juventus, et c'est vrai qu'on sentait que Conte, il réussissait vraiment à tirer le maximum de ce joueur. Deschamps n'est pas encore parvenu, et Mourinho encore moins, donc je pense qu'il faut vraiment quelqu'un qui soit derrière lui et qui lui mette beaucoup de pression.
Moi, j'ai quand même l'impression qu'on attend beaucoup de lui. Et du coup, même quand il fait un bon match, on dit qu'il a été mauvais, parce qu'on attend tellement qu'il soit exceptionnel à chaque fois que ce pauvre jeune, même quand il fait son job et correctement, on lui tombe un peu dessus. Donc
ouais, mais à 5-10 millions, tu es obligé d'attendre autre chose que du mec qui est transféré à 10. Donc c'est pour ça, il a la pression. C'est le transfert le plus cher au monde. Donc c'est sûr que tu attends de lui chaque semaine qu'il soit exceptionnel.
Je pense qu'il lui manque juste un peu de réussite. Le match de ce week-end où il arrive, il fait un plat du pied qui met à côté, il fait une énorme tête qui va s'écraser sur la barre transversale. Il y a aussi la chance si elle tournait aussi du bon côté, je pense qu'on n'aurait pas le même discours.
Ouais, je veux pas parler de Pogba parce que on en parlera finalement quand il aura fait quelque chose.
Enfin, j'aimerais parler de coloriage.
Ouais, voilà, j'aimerais qu'on parle de coloriage. Non, un petit truc pour se remonter le moral en ce moment, le matin quand je vais pas bien, je me mets le but de Payet sur je sais pas si très vous l'avez vu, mais vraiment c'est exceptionnel.
Ah ouais, un but d'anthologie.
Exceptionnel, quoi. C'est moi je me le mets plusieurs fois par jour.
Et il progresse, il change de club d'année en année, il va dans des clubs de plus en plus bons. Et
non mais on parle souvent de Paris. Mais dans le recrutement, quand tu sais la surface financière qu'ils ont, le potentiel qu'ils ont, tu as deux Français qui actuellement à l'Atlético de Madrid, c'est des phénomènes. Ils s'entendent super bien, ils vont jouer en équipe de France, Griezmann, Gamero, mais qu'est-ce que tu attends quand tu es Paris? Il faut recruter ces deux joueurs-là.
Et ils ne sont pas vendeurs.
Tu mets 25 millions sur un Espagnol que le Real Madrid ne voulait même pas. Bon, tu mets 55 ou 60 millions d'euros pour prendre Di Maria et pareil pour prendre Cavani. C'est des joueurs comme ça, tu dois faire, en plus c'est des Français, dans un club français, c'est là que tu dois mettre le paquet pour prendre ces deux joueurs.
Surtout que Gamero, il l'avait déjà, quoi.
Ouais, Gamero c'était une autre époque.
Alors, que dirait Louis Nicolin s'il était président du Paris Saint-Germain sur sa cellule de recrutement?
Ah ben là, ça serait marrant.
Allez, ok, un dernier mot, on parle de Montpellier, Ligue des Champions. Qu'est-ce qui s'est passé, Christophe? T'es protégé là en Ligue des Champions, la Rioja 31, Montpellier 30.
Ouais, ils vont faire un mauvais début de saison, mais ils seront irrésistibles à partir de... avec les beaux jours, quoi. Voilà.
Ah bah super, super l'explication.
Ah, non, mais il y a beaucoup de nouveaux joueurs, il y a tout un collectif à refaire. Mais c'est un groupe énorme. Je continue et jusqu'à que je sois vraiment ridicule, je soutiendrai que cette équipe va faire quelque chose de
beau. On n'est pas loin là. Hein.
Avec le meilleur coach de France. Ouais, et je reste optimiste.
Allez, on reste tous optimistes. On parlait du joueur le plus cher du football mondial il y a quelques instants, qui joue à Manchester United. Allez, je fais gagner une place pour le spectacle d'Axel Lafont le 13 octobre au Théâtre de Mende, à celui qui va me dire sur redac@48fm.org ou sur Facebook, sur le post où je dis que j'invite Badarou, qui me donne le nom de ce joueur, gagne une place, le premier ou la première. Allez, 13 octobre, t'as demandé.
En loge.
Allez, en loge. Et vous pourrez passer la soirée avec Axel Lafont, déjeuner avec elle et peut-être dormir avec elle. Allez, c'est moi, c'est cadeau.
On peut jouer, nous?
Tu peux jouer. Allez, on va se dire au revoir, comme ça Aurélien va pouvoir aller jouer. On se retrouve lundi prochain. Merci beaucoup. Allez, laisse Badarou, on vous suit.
Merci et venez nombreux dimanche à la Biog, à 15h.
Allez, ciao.
Bye bye.
Au revoir.
Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, c'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Il t'a dit apéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.